It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
Bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast Soccer Bleu Blanc Noir, l'édition du 19 avril 2021. Jeff Morency avec vous pour les 30 prochaines minutes. Et ce soir, gang, on a vraiment un gros podcast pour vous parce que on va revenir, oui, sur le dernier match un petit peu. On va en parler. Je pense qu'on a fait le tour pas mal avec Richard et Arius dans le podcast hier, MLS Franco. Merci à tous les auditeurs qui ont suivi le podcast MLS Franco, l'édition d'hier qui a franchi la barre du 1000 visionnements uniquement sur la plateforme Twitter. Donc, merci à vous tous. Les hommes de Wilfred Nancy, qui étaient donc après cette éclatante victoire, on va le dire comme ça, hein, je pense qu'on peut être fier de cette victoire-là face à Toronto, mais il était de retour aujourd'hui à l'entraînement. On avait eu la chance au niveau des médias de parler également à Zachary Broguillard et à Victor Wanyama. J'ai posé une question à Zachary Broguillard. On va revenir un petit peu plus tard là-dessus. On va revenir également sur Nashville, puisque Nashville sera le prochain adversaire des hommes de Wilfred Nancy et du CF Montréal. Donc, on va analyser un petit peu le match en détail. Comment ça s'est passé, Nashville contre Cincinnati, et à quoi s'attendre finalement de nos prochains adversaires? Je pense que ça va être intéressant de suivre. Ça va être intéressant à regarder également. Mais on voit là présentement, vous voyez les images qui proviennent du CF Montréal et de la MLS et qui monte un groupe qui a l'air bien présentement. Et je pense que cette victoire-là, ben elle a fait grand bien aux hommes de Wilfred Nancy en ouverture de levée de rideau de cette saison MLS 2021. Je pense que ça a fait du bien à tout le monde. On le sait, c'est un derby. On sait qu'on voulait tous battre Toronto et les gars sont pas peu fiers de l'avoir fait. Et suite à cette rencontre-là, il y a eu bien sûr une allocution aux médias présentée par Wilfred Nancy. Je vais vous présenter deux réponses qu'il a données à Dave Lévesque du Journal de Montréal. La première concernant est-ce qu'il était satisfait du résultat et de ce qu'il a vu sur le terrain finalement et de la tenue de son équipe face à Toronto. On écoute la réponse à Dave Lévesque de Wilfred Nancy.
Ouais, la conséquence du fait que je sois content, c'est parce que les gars ont fait ce qu'ils devaient faire. Et après, le score est venu naturellement parce que je voulais qu'on soit agressif. Je voulais qu'on joue notre football. Notre football, c'est d'être agressif défensivement. Et avec le ballon, c'est d'essayer d'attirer pour prendre de la vitesse. Et je pense qu'on l'a bien fait. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je suis très content. Oui, du score, parce que c'est aussi Toronto, mais surtout aussi de la manière pour un premier match avec pas beaucoup de temps pour travailler. Je suis très fier des
Donc, je pense qu'on a un Wilfred Nancy. Le son était peut-être pas parfait. Un Wilfred Nancy qui était quand même relativement fier de la tenue de sa formation. Et je pense qu'il peut l'être. Hein. On a eu un très bon match. Une équipe, c'était difficile. Sincèrement, à l'issue de cette rencontre-là, nommer le joueur du match. D'habitude, on n'a jamais de difficulté à identifier un joueur qui a réussi. Mais là, on a eu un bon match venant de plusieurs personnes. On a Zachary Broguillard qui se retrouve sur l'équipe d'étoiles de la semaine, tout comme Wilfred Nancy comme entraîneur-chef et Georgi Mihailovic qui se retrouve sur le banc de cette formation de prédilection dans la première semaine d'activité. Et d'ailleurs, la deuxième question de Dave Lévesque, toujours adressée à Wilfred Nancy, allait justement dans ce sens-là. Comment il avait trouvé Zachary Broguillard dans cette rencontre-là? Parce qu'on l'a bien senti et je pense qu'effectivement, c'est un de ses bons matchs depuis son arrivée avec le CF Montréal. On écoute la réponse de Nancy.
Ben, Zach, ce qui lui fait du bien, c'est qu'il y a la concurrence cette année. Et il a besoin d'avoir de la concurrence. Il y a Clément Baya qui pousse derrière. Et donc, ça crée une bonne émulation, ça crée une bonne stimulation. Et donc, du coup, Zach, aujourd'hui, il a montré des choses que l'on souhaite voir plus souvent. Et on connaît ses qualités. Maintenant, il a besoin de continuer à travailler comme il le fait et d'être concentré plus longtemps. Donc, et aujourd'hui, il a été capable de le faire. C'est pour ça qu'il a eu une bonne performance.
Donc, Zachary Broguillard avait besoin de compétition et clairement, on identifiait Clément Baya comme étant une doublure possible à Zachary Broguillard, ce qui donc vient lui mettre une pression supplémentaire de performer. Il a besoin de ça, il a besoin également de rester concentré et je pense qu'il adore le rôle un petit peu plus libre qu'on lui accorde. On l'a vu beaucoup en phase offensive, Zachary Broguillard. Donc, c'est une liberté qui est intéressante dans son cas. Et on avait la chance de lui parler, justement, à Zachary Broguillard aujourd'hui. Et moi, je lui ai demandé, prochain adversaire, Zach, c'est Nashville. Formation qui va peut-être te donner beaucoup moins de latitude parce qu'on va le voir ensemble tantôt dans quelques instants. C'est une équipe qui va jouer énormément le couloir à Zach. Donc, est-ce qu'il s'attend à ce que son rôle pour le prochain match soit un petit peu moins libre justement et qu'on y demande là un petit peu plus d'efforts défensifs? Là, il avait beaucoup de liberté, beaucoup de place à naviguer, à s'exprimer, à exprimer son talent. Ça sera peut-être pas la même réalité la fin de semaine prochaine. Donc, voici la réaction de Zachary Broguillard.
Je peux pas vous en dire quoi que ce soit. Donc, à vrai dire, je sais que c'est une équipe assez offensive. Daniel Lovitz, il était là parmi nous il n'y a pas si longtemps que ça. Très bonne qualité athlétique et technique. Et il va vraiment, c'est un latéral gauche très bon, très exigeant, très professionnel. Donc, faudra faire attention à nous de bien gérer, comme si on reproduire, voire même mieux le match précédent contre Toronto et pour ramener les 3 points. C'est, on veut faire partie des playoffs cette saison encore. Donc, à nous de bien concrétiser sur le prochain match et avoir pourquoi pas les 6 points. 3 plus 3, pardon.
Des matchs de 6 points, c'est intéressant. Non, mais Zachary Broguillard, donc, qui clairement identifie encore l'objectif de la saison, qui est de participer aux séries d'après-saison. Et faudra tout prendre. Faudra tout prendre ce qu'il y a à prendre. On va regarder un petit peu plus tard cette semaine. Tantôt, on le voyait d'entrée de jeu. Les gars sont à l'entraînement. On recommençait à focusser lentement mais sûrement en direction de cette rencontre-là de la semaine prochaine, qui sera donc contre Nashville, qui a connu un verdict nul 2-2 face à Cincinnati. Un club qui a jamais abandonné parce que dans les circonstances, après la 10e minute de jeu, on était déjà à 2-0 pour Cincinnati. Et sans parler de remontada du côté de Nashville, c'est un club donc qui a réussi à revenir dans ce match-là. Et je pense que c'est tout à leur honneur, donc faudra faire attention. Il y a eu des grosses performances, on va regarder ça en détail dans quelques instants. C'est sûr qu'on va poursuivre avec nos membres premium, mais je vous présente rapidement ce qui s'en vient. ceux qui vont demeurer avec nous. On va se parler du 11. On va se parler de la force de frappe de Nashville. Où est-ce qu'on a bougé le ballon? Qui a touché à ce ballon-là? On va regarder le top 5 des performances et les zones de jeu, donc super important pour le Nashville SC. Donc, à partir de maintenant, je poursuis avec nos membres Premium Plus. Si vous ne l'êtes pas, je vous invite à le faire. www.bbnmedia.com à partir de seulement 4$ par mois pour avoir toute la couverture complète à travers toute la MLS. On est la plateforme de prédilection. Donc, on continue avec le 11 qui affrontait Cincinnati la semaine dernière. Ça va être intéressant de suivre ça ensemble et de voir exactement qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre-là. Donc, on évolue en 4-2-3-1 du côté de Nashville. Lovitz, Romney, Zimmerman et Johnston qui sont à la défense. Godoy et McCarthy qui forment le milieu de terrain. Léal, qui a été géant dans cette rencontre-là, se positionne sur la gauche. Mukhtar à la position donc 10, Mio sur la droite et Cadiz qui est tout juste en haut du terrain, complètement donc en haut. Dans cette rencontre-là, je peux vous dire que le gardien de Cincinnati, dans les circonstances, il a très, très, très bien fait puisqu'on parle de 31 tirs quand même qui ont été tirés en direction de la cage de Cincinnati. Et on va aller voir justement les highlights de cette rencontre-là. Si je peux me ramener un peu comme ça, on va essayer. Ah, OK, comme ça, on va aller chercher les highlights de ce match-là. Toujours une fois présenté donc par MLSsoccer.com. Comme c'est eux qui nous fournissent bien sûr les images et les vidéos qui vous sont présentées dans le cadre du podcast BBN et MLS Franco. Donc on voit à la 7e minute, 7 minutes 30, le premier but donc de Cincinnati dans cette saison-là. On avait déjà les devants 1-0 pour Cincinnati et vous allez voir dans quelques instants à la 10e minute de jeu, le gardien de Nashville qui commet une erreur quand même relativement grave dans la surface et on accorde donc après révision de la VAR, on décide d'accorder à Brenner un tir de pénalité qui bien sûr sera converti du côté de Brenner. Fallait s'attendre à ce que ce ballon-là se retrouve au fond du filet et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc Cincinnati, après 10 minutes de fait dans cette rencontre-là, était déjà en avance par la marque de 2-0. Donc, quand je vous dis que Nashville est une équipe qui travaille fort, c'est une équipe, on a parlé avec Richard, hein, c'est une équipe de col bleu, donc c'est une équipe qui travaille pendant 90 minutes de jeu. Et non seulement ils n'ont pas abandonné, mais ils l'ont complètement explosé dans cette rencontre-là et vous allez voir, il y a eu des tirs de qualité, des tirs qui venaient de partout. Mais on a pris énormément de lancers sur la cage adverse et là, on voit la 19e minute de jeu, le premier but de la rencontre pour Nashville. L'autre sera venu vraiment plus tard dans la rencontre. Mais vous remarquerez que le ballon, il circule très rapidement. Et on est très menaçant sur les ballons arrêtés. Regardez ici, on a un corner, mais bloqué par le gardien de Cincinnati, qui, comme je vous l'ai dit, avec 31 tirs, a été vraiment appelé à intervenir souvent dans cette rencontre-là. C'est pas tous des tirs qui ont été cadrés, on le voit en ce moment, mais c'est quand même 31 tirs qui ont été dirigés vers la cage de Cincinnati. Regardez ici, on a un corner à la 63e minute de jeu et quelle balle pour cette reprise-là qui va venir être le deuxième but, le but égalisateur dans cette rencontre-là. Et d'ailleurs, pour ce but, il est finaliste Il est finaliste dans les buts de la semaine avec cette frappe, donc bien contrôlée, bien temporisée, le gardien de Cincinnati qui y touche au passage, mais on a réussi donc à trouver le fond du filet. Et c'est comme ça donc que se clore un peu cette rencontre-là, mais quoi qu'il en soit, on a chauffé les fesses beaucoup et on voit donc sur les ballons arrêtés en zone offensive très très menaçant. Ici 69e minute de jeu, on touche la barre horizontale du côté de Nashville. Donc faudra faire attention à ne pas trop se commettre et ne pas trop prendre d'erreurs en zone défensive du côté du CF Montréal si on veut réussir à connaître le succès face à un Nashville très menaçant et très agressif, surtout. Donc, comme je le disais sur les phases de jeu arrêtées, mais regardez, contrôle, touche, on prend la frappe. Donc, c'est la marque de commerce, je pense, cette saison pour Nashville. Donc, ça va être intéressant de suivre tout ça. Et si on regarde la prise de balle, donc énormément de tirs qui provenaient de la surface. On en a quelques-unes, 2, 4, 6, 8, on en a peut-être une dizaine qui proviennent de l'extérieur de la surface. Et si on regarde les lignes de jeu par où on a fait évoluer cette rencontre-là, ben c'est clair que tout ça provenait du milieu. Zimmerman à Romney, on parle de 31 passes dans cette rencontre-là. De Romney à Lovitz, on parle de 19 passes. Godoy et Lovitz, 17. Lovitz et Léal, on parle de 27. Vous avez entendu tantôt les commentaires de Zachary Broguillard. Lovitz est un défenseur donc latéral qui jouera sur le couloir, bien sûr, de Zachary Broguillard lors de cette rencontre-là. Ça m'étonnerait qu'on change de schéma tactique. On va y revenir. Ça m'étonnerait qu'on change de schéma tactique pour Nashville, mais on peut voir donc un 4-2-3-1 là, et tout passe par Zimmerman, Lovitz, Godoy, Léal et Cadiz, bien sûr, qui sont là. Et quand on regarde justement, quand je vous dis que ça passe par ces éléments-là, on regarde le top 5 des performances dans cette rencontre-là. Les meilleures notes qui ont été offertes au Nashville SC via SofaScore, Randall Leal qui, au milieu de terrain, se prend la première place. Daniel Lovitz, défenseur latéral. On a Cadiz qui a marqué le deuxième but, comme je vous disais tantôt. Une excellente frappe provenant d'une zone très menaçante. Le gardien n'y pouvait à peu près rien. Elle était parfaite et bien placée. Malgré que le gardien de Cincinnati lui a touché, elle a trouvé le fond du filet. Godoy et Zimmerman complètent ce top 5. Des joueurs, donc, qu'il faudra surveiller. Quand je dis à Zachary Broguillard, faudra faire attention, Zach. Ça va se passer le prochain match pas mal dans ton couloir. On va juste regarder les zones de jeu dans cette rencontre-là. Regardez, plus la surface elle est rouge, plus elle est intense pour chacun des joueurs. Je vais retirer le logo du podcast BBN. On peut voir là, la zone de jeu pour les gens, les auditeurs qui sont avec nous en version audio et qui ne voyaient pas les zones de jeu. On a Walker Zimmerman qui est très, très, très actif, un petit peu en bas du cercle d'engagement, sur déporté un petit peu sur la droite. Donc, non pas dans le couloir, mais entre vraiment le cercle et le couloir. Je vous dirais entre le milieu d'engagement et la boîte défensive. Donc, l'ensemble du jeu part de là. C'est là que tout se passe et qu'on construit donc les premiers jeux. Daniel Lovitz fait après ça la transition. On le voit là, très, très, très actif dans le couloir, Daniel Lovitz, sur la gauche. et Léal également très, très présent sur le couloir gauche et je dirais le couloir, je vais appeler ça le couloir intérieur gauche. Donc, on sent que ça se passe là. Dans cette rencontre-là, Mukhtar s'est pris 5 lancers, Léal 4, Cadiz 4, Godoy en a 3 de son côté et Hannibal Godoy n'a pas peur d'aller chercher les ballons. Hein. Vous regardez là partout autour du cercle de mise en jeu, il n'y a pas de zone proprement dit. Donc, c'est un joueur qui envoie le signal qui sera toujours en mouvement autour donc du cercle d'engagement. C'est là que ça se passe, c'est sa zone chaude et il est capable donc d'aller finir le jeu beaucoup plus haut et Cadiz lui a pris donc quelques frappes et fait des apparitions un peu partout, on le voit autant à gauche qu'à droite, donc il est capable de justement venir se démarquer pour faire des appels de balles qui seront à l'extérieur, je vais appeler ça du trafic, mais c'est définitivement ce qu'il faudra surveiller dans le cas de Nashville SC. C'est les zones de jeu donc qui sont les plus propices à cette intervention-là. Si je regarde, pardon, on m'a perdu quelques secondes. Si je regarde la tenue de la troupe de Wilfred Nancy face à Toronto, il y en a qui vont dire, Jeff, Toronto avait un club B sur le terrain. On ne peut pas diminuer la performance du CF Montréal, qui a sorti très, très fort, qui a sorti rapidement. On a fort possiblement le but, et j'ai pas regardé en détail les statistiques, mais d'après moi, on a le but le plus rapide dans cette première semaine d'activité, alors que le CF Montréal menait par 1-0 après 3 minutes de jeu seulement. Alors, ils l'ont fait. Ils ont tout donné et ils ont mouillé le maillot. C'est ce qu'on s'attendait de voir. Et moi, ce que je trouve intéressant dans cette victoire-là, c'est que cette victoire-là, elle est collective. Elle ne repose pas sur un joueur. La saison dernière, la formation de l'Impact allait bien lorsque Romel Kyoto allait bien, souvenez-vous. En début de saison, cette formation-là allait bien parce que Maxi Urruti allait bien. Donc là, on a réparti les tâches, on a réparti la production offensive également. Plusieurs joueurs qui ont marqué dans cette rencontre-là, plusieurs joueurs qui ont des passes décisives dans cette rencontre-là. On se ramasse avec 3 membres du CF Montréal sur l'équipe d'étoiles de la semaine en MLS. Donc, ça veut pas peu dire. C'est assez significatif des succès annoncés. Ceci étant, si vous avez écouté le podcast MLS Franco, qui est disponible et qui est ouvert à tous en passant, donc si vous voulez aller le chercher, il est là, il est disponible via nos différentes plateformes. Je vous invite à aller visualiser tout ça. Mais comment je pourrais dire? Arius nous a fait observer que la production offensive, elle était plutôt moyenne pour toutes les formations qui auront participé au tournoi de la Ligue des Champions. Donc, on le disait, ces équipes-là vont peut-être... Avant le match, on se demandait, est-ce que Toronto va sortir avec le momentum parce qu'ils vont avoir joué 2 matchs de qualité, 2 matchs contre Deportivo Saprissa et Club León, pardon. Donc, 2 matchs de qualité contre un champion mexicain. Est-ce qu'ils vont avoir le momentum ou est-ce qu'ils vont souffrir un peu de fatigue? Et je pense qu'il y a eu un mélange des deux. On disait... Toronto a une formation relativement jeune avec tous les blessures, donc il devrait avoir le momentum. Mais je pense qu'on a souffert un peu des blessures et des absences. Je pense qu'on a également souffert un peu de fatigue dans cette rencontre-là. Donc, il faut pas prendre Nashville pour acquis lors du prochain match, mais on peut pas diminuer cette performance-là. Zachary Broguillard, à mes yeux, a connu un excellent match, comme Georgi Mihailovic, comme plusieurs joueurs. Belle entrée pour Hurtado en fin de rencontre. J'ai hâte d'en voir davantage. Mason Toll, qui avait laissé un peu tout le monde sur son appétit la saison dernière, est venu démontrer qu'il pouvait amener un plus à cette formation-là, qui pouvait contribuer au succès offensif du 11 montréalais et noircir lui aussi la feuille de pointage. Et ça, je pense qu'on est très heureux de l'avoir observé face à Toronto, et on l'a observé assez tôt dans le match. On a vu également un Georgi Mihailovic qui s'inscrit au pointage, lui qui était très heureux. Vous avez sûrement vu passer les vidéos de Catherine Paquette où il embrasse finalement le blason sur le maillot noir et bleu de la formation. C'était de toute beauté. Moi, en tout cas, c'est le genre de gestes et d'action que j'aime voir. Wanyama, je me tanne pas de le voir grimper sur Bradley, remise sur corner pour aller pousser ce ballon-là de la tête dans le fond du filet. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, on a réussi à partager les tâches et le travail au niveau de l'offensive. Et ça, c'est à l'avantage vraiment du CF Montréal qui grimpe. Hein? Eux qui avaient été dépeints comme étant une équipe de 13e, 4e position dans l'Est, ont commencé à remonter tranquillement, pas vite, au niveau des prévisions. Et ça, c'est bien. C'est bien. Mais faut pas donc prêcher par un excès de confiance. Ça a bien été le week-end dernier. Ça ira fort possiblement pas toujours comme ça, mais on a observé vraiment des belles choses. Le seul point sur lequel on peut travailler, et je veux juste être clair avec vous, c'est pas nécessairement un point négatif. Mais si j'avais un joueur à pointer comme étant une performance à surveiller et à améliorer, c'est Joel Waterman, qui, à mes yeux, à moi, n'a pas réalisé la tâche à la hauteur de ce que je m'attends d'un défenseur central titulaire dans le circuit de la MLS. Et on l'a vu, Wilfred Nancy a décidé un petit peu plus tard dans le match de le bouger un petit peu de sa position naturelle. Il faudra faire attention parce que là, on va jouer contre un Nashville très agressif. On va jouer contre un Nashville qui prend énormément de frappes et un Nashville qui est très, très, très rapide dans son exécution. Donc, il faudra faire attention, faudra être vigilant. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, Jeff, Struna à la place de Waterman, on gagne pas en vitesse, mais si on gagne en exécution, en QI soccer, je pense qu'on peut compenser certaines lacunes. Ceci étant, je dis pas que Waterman fait pas le travail. Je dis juste que on pourrait faire mieux à cette position-là. C'est sûr que bon, on va avoir le retour éventuellement de Binks, mais ce sera temporaire. Il faut pas oublier une chose, c'est que Louis Binks va quitter pour Bologne. Si c'est pas dans le mercato d'été, ce sera fort possiblement à la fin de la présente saison. Et là, on va avoir une certaine faiblesse en défensive centrale. Et je vous rappelle que la saison dernière, CF Montréal offrait ou présentait l'une des pires défensives dans le circuit Garber. Donc, faudra faire attention et être vigilant. Puis, je dis pas que Waterman mérite pas de minutes. Je dis pas qu'il faut pas le faire jouer. Je dis simplement qu'il y a une observation à faire. Faut être vigilant dans son cas et continuer de travailler fort, fort, fort. Là-dessus, gang, je vous souhaite un excellent match cette semaine. J'espère que vous avez apprécié votre week-end soccer. Premier week-end soccer de la semaine. De la saison MLS. Donc, c'est un rendez-vous le week-end prochain face à Nashville. On va en reparler un petit peu mercredi avec Arius dans le podcast, mais c'est sûr qu'on va revenir également sur le dossier de la Super League. On en a parlé brièvement dans le podcast d'hier soir, MLS Franco, mais on va revenir donc moi et Arius demain sur ce podcast-là. Donc là-dessus, bonne soirée. On se retrouve mercredi pour une nouvelle édition de votre podcast Bleu, Blanc, Noir.